interprétation personnelle de l'hymne américain par le génie de la corde Jimi Hendrix. Et l'on retrouve la seconde partie de l'entretien avec Daniel Mermet autour du documentaire qu'il vient de co-réaliser avec Olivier Azam, Howard Zinn, une histoire populaire américaine de fou.
Sur la crise démocratique, hein, qui rappelle un peu les années 30, est-ce que, bon, la restriction des droits civiques, etc., est-ce que ça vous semble être une répétition historique ou une nouvelle phase ?
Ce qui se passe actuellement, ouais. C'est difficile de dire, c'est difficile de dire. Il y a cette hégémonie, hein, il y a cette... cette domination, il y a cette mission sacrée de domination qui est, et puis cette toute puissance militaire, à commencer par ça, toute puissance économique, mais avec des inégalités énormes à l'intérieur du pays. On a fait des reportages à l'époque au temps du Tea Party et on a vraiment rencontré des gens qui sont dans la pauvreté, hein, qui ne peuvent pas se payer une bière, etc. Donc, il y a une... Mais il y a beaucoup d'analogies à faire avec ce qui se passe ici. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des ressources profondes pour une gauche, enfin pour plus d'égalité, moins de souffrance aux États-Unis.
Alors Zinn, il insistait aussi sur le lien entre les luttes sociales internes et la solidarité internationale. Mmh. Cette articulation-là, aujourd'hui, elle semble difficile, non ?
Oui, c'est ça qu'on a vu avec, sur Sacco et Vanzetti, par exemple, et sur l'affaire de Scottsboro. Deux fois, on voit qu'il y a eu une mobilisation mondiale sur ces causes-là, dans des époques, là on parle des années 20-30, dans des époques où la communication n'est pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui, et il y avait une mobilisation planétaire, alors qu'aujourd'hui on a les moyens les plus formidables qu'on a jamais eu sans précédent de communiquer. On dit dans le film, l'international n'est plus ce qu'elle était.
On parle aussi de la guerre d'Espagne, oui. où les Américains se mobilisent en masse. Quand
oui,
même.
Oui. Le mouvement Lincoln, la guerre de Lincoln qui s'était mobilisé. Oui, c'est vrai. Mais lui-même, il était tout gamin. Hein. Il était né en 22, donc en 36, il avait 14 ans. Donc il rêvait d'y aller. Il était très admiratif des gars qui sont allés. Il y a eu ces engagements-là. Il y a eu ces solidarités-là. Il n'y a pas rien. Hein. Il y a une image. Les États-Uniens sont très forts pour le soft power. Ça, c'est très, très fort. Ils l'ont montré à la Libération. Ça n'a pas été une armée triomphale qui marche au pas avec, en déployant son matériel militaire, comme le faisaient les Soviétiques. Eux, ça a été le charme. Ça a été, on offre des chewing-gums, des jolies cigarettes, des jolis bas pour les filles. Les gars sont vachement gentils, etc. C'est un soft power formidable.
Comme Hollywood, tout le travail d'Hollywood.
L'Hollywood, voilà, Hollywood, la propagande par le rêve. Et il y a une séduction américaine qui est formidable, dans la musique, etc. Il y a un talent, il y a une force d'expression. Ça, c'est une particularité sans doute de la culture américaine, c'est une force d'expression qu'ont les gens, tout simplement. Hein. Nous, on est un pays de l'écriture, de la littérature, on dit aux gosses, tu ne bouges pas dans la classe, etc. Il faut... Là, les mômes, on a Julian Lipkins, ce prof dans sa classe qui suit le bouquin de Zinn pour son enseignement de l'histoire. Il fait des jeux de rôle avec ses élèves. D'ailleurs, il va venir, on l'a invité à... Il va être là dans deux semaines à Paris. On l'a invité à venir expliquer sa pédagogie. Il va nous dire aussi qu'est-ce que c'est d'enseigner l'histoire actuellement au temps de Donald Trump, et aussi on va se demander s'il va pouvoir rentrer tranquillement dans son pays.
Alors, pour revenir sur le rêve américain, qui paraît à bien des égards un outil de pacification sociale, peut-on encore déconstruire ce mythe à travers le cinéma documentaire ?
Nous, on essaye, on croit à ça. On croit, nous, on est... Voilà, on fait, que ce soit Olivier avec ses films et avec son travail avec les Mutins de Pangée ou moi avec mon genre de journaliste. On croit à l'émancipation, on croit contribuer à une émancipation. Voilà, c'est assez simple. Toujours, encore une fois, j'y reviens avec cette idée que c'est pas, nous, on n'est pas des militants, hein, on fait un travail. On est engagés, mais pas militants. Pour nous, c'est une grande différence. Et voilà, les gens font ce qu'ils veulent de ce qu'on leur suggère, mais on va à contre-courant, on n'est pas les seuls, hein, mais on va à contre-courant de l'image diffusée, de l'idée qu'on se fait des États-Unis. Et je fais attention à dire États-Unis parce que dans tous les débats, il y a un truc marrant, dans tous les débats, il y a toujours quelqu'un là depuis cette la tournée qu'on est en train de faire qui lui dit mais pourquoi vous avez intitulé une histoire populaire américaine et non pas états-unienne alors que c'est le titre qu'on avait choisi pour montrer qu'on ne voulait pas suivre le livre puisque le titre du livre c'est les États-Unis et ça c'est parce que depuis l'histoire du Venezuela l'opinion a compris la différence qui existe entre les États-Unis et l'Amérique. Alors que dans le langage ici, dans le langage en France, on dit les Américains. Dans Jour de fête, je ne sais pas si vous vous rappelez, Jour de fête avec Dulot, le facteur fait sa tournée à l'américaine. Hein. Voilà. C'est le mot américain, ça veut dire les États-Unis. Et là, ce qui s'est passé avec le Venezuela, c'est que je dis, non, il ne faut pas confondre les États-Unis et l'Amérique. Amériques.
Ce n'est pas un détail, oui. Howard Zinn écrivait contre l'histoire officielle. Aujourd'hui, qui contrôle le récit historique ?
Aux États-Unis ? Je ne saurais pas dire. Je crois qu'il est contesté. Ben, c'est les grands médias, c'est les très grands médias qui contrôle New York Times, etc., les grands journaux, et puis évidemment les réseaux sociaux, qui sont très très puissants et qui fabriquent l'opinion, c'est Fox News, c'est ces grosses machines à produire. C'est eux qui ont inventé ces news. Hein.
Si on fait le parallèle en France avec Bolloré qui monopolise l'édition scolaire avec 74% du scolaire, c'est quand même inquiétant.
Ben, il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre ça. Il faut dire autre chose. Il faut faire attention il faut faire attention pour autant. Notre arme, c'est la vérité. Notre arme, c'est la vérité. Surtout que là, on est rentré dans une époque de post-vérité. C'est-à-dire que n'importe quel mensonge, on a tous, ça relève de l'espèce humaine, on préfère croire que savoir. On préfère croire que savoir. Et notre boulot, c'est quand même, nous, on fait partie de ceux qui croient. Si on croit à quelque chose, c'est qu'on croit au savoir. On croit à la vérité. On pense que c'est un moyen, la vérité, la recherche de la vérité est un moyen de progrès, est un moyen de paix aussi. Et là, la vérité est menacée. On est dans la post-vérité. Aujourd'hui, on le voit avec les émissions de CNews ou celles qui viennent de Fox News. Qui sont des mensonges manifestes, sans aucune, c'est pas du journalisme, c'est des proclamations, des affirmations, qui jouent sur les affects, sur les peurs, qui jouent sur les peurs, sur les angoisses, qui fabriquent de la peur et de l'angoisse, et qui jouent ensuite, qui capitalisent, et j'emploie ce mot à dessein, sur les peurs et les angoisses qu'ils fabriquent.
Et donc pour finir, bon, ce livre, Une histoire populaire des États-Unis, qu'on peut d'ailleurs trouver chez Agone Edition,
oui.
Il inspire un troisième volet.
Ouais.
Alors
ouais.
Vous disiez, ça va travailler plutôt sur la dimension de la religion.
Non, ce sera un des aspects, ouais. Mais le troisième partie, c'est que cette deuxième partie s'arrête à Hiroshima. Hein. Jusque-là, Howard Zinn, c'était un brave Américain. Voilà, pour lui, Hiroshima, il avait 45, ça fait 45, il avait 23 ans, c'était comme un jeune homme. Il avait été lieutenant bombardier, il avait 23 ans. Voilà. Et Hiroshima, c'était pas mal. Hein. La guerre est finie et l'Amérique a gagné. Voilà. Il en était là. Hein. Bien qu'il soit un progressiste et un gars qui avait envie d'en découdre, voilà. Et c'est après ça.
Il y a un déclic.
Alors le déclic, c'est le GI's Bill. C'est-à-dire que ce qui a été proposé à ces très jeunes vétérans, qui revenait du front, c'était la possibilité d'entrer à l'université sans avoir fait des études préalables et de pouvoir rentrer soit en droit, soit en histoire. Et lui, il est entré en histoire et c'est à partir de là qu'il va devenir pacifiste et qu'il va développer ses idées et son travail d'historien.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
can harmonize. There's that other. One soldier's walking on our streets.